Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 202, pour le jeudi 23 mai 2013, les procès en diffamation. Aujourd'hui, je suis avec Gulven Kerbelek, que j'ai invité sur le balado pour nous discuter de la question de la diffamation, donc des procès en diffamation, parce que c'est un problème récurrent pour les sceptiques qui ont des blogs ou des balados, etc. On se fait menacer de poursuites en diffamation, puis parfois ça arrive. À moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je veux dire, à des amis sceptiques, ça est arrivé régulièrement sur, par exemple, le forum Sceptique OVNI. Et donc, ça fait un moment que je cherche un avocat qui pourrait nous en parler, mais les avocats sont très occupés. Et dans ce contexte, c'est difficile à trouver. Un qui soit, un, compétent, et deux, qui, dans le sujet très spécifique, et deux, qui soit prêt à en parler dans une interview. Et donc, dans ce contexte-là, Gulven m'a signalé qu'il avait des connaissances, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que sceptique ayant vécu la chose. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel. Ouais, donc je suis pas ni juriste ni avocat. Disons que j'ai eu quelques expériences qui m'ont permis de faire un petit peu de bibliographie sur le sujet et que je suis bien content de partager avec toi.
Oui, on va pas rentrer dans les détails de ce qui t'est arrivé, mais de manière très générale, raconte-nous un peu. Enfin, c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé?
Alors pour moi, alors je sais pas si c'est vraiment à classer dans quelque chose qui est sceptique scientifique ou plutôt lanceur d'alerte. En gros, j'ai trouvé un sujet qui me perturbait que je trouvais pas logique, pas normal. J'ai décidé plutôt que de passer par des services directement de justice, j'ai décidé d'en discuter en me disant que peut-être les gens à qui j'avais trouvé des petits soucis de logique dans leur démarche allaient pouvoir en discuter avec moi, qu'on arriverait à une conclusion où les deux parties seraient d'accord, et éventuellement, s'ils reconnaissaient la logique de ma démarche, ils auraient changé leurs habitudes. Évidemment, ça n'a pas été le cas, et on a essayé de me censurer. La fin de l'histoire est plutôt de mon côté, mais du coup j'ai dû faire tout ce parcours juridique qui m'a apporté pas mal d'expérience, je dois dire. C'était plutôt intéressant.
Tu as gagné, tu as perdu.
Alors j'ai eu deux phrases qui m'ont été reprochées. Sur une des phrases, j'ai réussi à gagner, j'ai réussi à m'en sortir. Sur la deuxième des phrases, j'ai pas réussi à m'en sortir. Alors c'est pas allé chercher très loin, mais c'est plutôt compliqué. Bon, je vais y revenir de toute façon dans la suite de notre discussion. En fait, moi, ce que je pensais, j'avais beaucoup d'idées reçues sur la liberté d'expression en France en particulier, des idées reçues sur la diffamation aussi, et puis je suis un sceptique, alors j'ai adopté la démarche expérimentale, je suis allé me renseigner sur la liberté de la presse en France, par exemple. Moi, je pensais franchement que la France était un pays très ouvert, très libre. En fait, je sais pas si tu as eu accès au classement RSF. Tous les ans, Reporters sans frontières fait un classement. Alors sous Sarkozy, il y a quelques temps, on était quatrième. La France était quatrième dans le classement mondial. Maintenant, on est 37e. Ce qui est toujours pas glorieux. Enfin, franchement, pour un pays comme la France, on pourrait s'attendre à autre chose. On est derrière le Suriname, on est derrière la République tchèque, on est derrière la Belgique. mais voilà, quoi. C'est vraiment pas glorieux. Alors, je vous invite aussi à aller voir la façon dont RSF fait son classement. Ils ont normalisé tout ça. C'est particulièrement intéressant. Donc ça, c'est liberté de la presse de façon globale en France. Je sais que dans le milieu sceptique, on a beaucoup parlé aussi ces temps-ci du documentaire Le Mur sur la psychanalyse. Je crois que tu as reçu la...
Oui, j'avais interviewé la directrice, effectivement. Ouais.
Voilà, donc je reviens pas sur toute l'histoire, mais en gros, il y a eu une censure de son documentaire. Alors, sur le documentaire Le Mur, c'était pas de la diffamation, c'était une histoire de coupure du documentaire de présentation.
Bon, c'est toujours le problème de du scepticisme à la française versus américaine, anglo-saxonne. Il y a eu beaucoup, bon, comme les anglophones sont beaucoup plus actifs, enfin, il y a une communauté plus importante dans le monde anglo-saxon. On a beaucoup suivi Simon Singh avec en Angleterre, avec le procès qu'on lui a fait, l'association des chiropracteurs ou chiropracteurs, je sais jamais.
Oui. C'est vrai qu'en Angleterre, ça a été très important avec cette histoire de Simon Singh. On y reviendra aussi tout à l'heure quand on comparera les différents coûts que peut donner une procédure en France ou en Angleterre. Il a vraiment été nécessaire pour lui de débourser beaucoup d'argent, de faire des appels aux dons, etc. Ce qui est un problème parce que on peut pas avoir une liberté d'expression à deux vitesses. On peut pas uniquement avoir une liberté d'expression pour les gens qui sont riches et qui ont les moyens de se défendre. C'est mon avis sur la question. En France, par exemple, on a l'affaire Zataz, qui est assez récente, là, qui est de la diffamation pure, c'est-à-dire un informaticien qui se rend compte qu'il y a des problèmes sur un serveur, qui va contacter les gens de ce serveur, leur dire qu'il y a un problème de sécurité. Ces gens vont régler le problème, le remercier, et ensuite il fait un article sur le sujet. Et finalement, comme il atteint l'honneur de cette société en parlant, et ben il se fait poursuivre pour diffamation. On a une autre personne assez intéressante, hein, en France, c'est vraiment un warrior, c'est Christophe Grébert, qui tient un blog qui s'appelle monputo.com sur la ville de Puto. Alors lui, qui est dans l'opposition de la mairie, régulièrement, il donne son avis sur la façon dont est gérée la commune, et régulièrement, il est poursuivi en diffamation. Et enfin, dans mon petit tour là des affaires relativement récentes, il y a une affaire de sceptique qui est importante. Alors moi, je suis peut-être arrivé un petit peu après dans le milieu. Je sais pas trop quelle importance elle a eu à l'époque, mais une affaire qui a opposé Henri Brock avec Charpak contre Lignon, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a été aussi une affaire de diffamation. Donc Henri Brock a sorti ses livres et il a été poursuivi sur des propos qu'il a tenus. Je sais pas si tu es au courant de cette histoire de...
Oui, en fait, c'était avant Internet et tout ça. Non, mais je sais pas exactement quand ça s'est déroulé, mais avant que la formation circule aussi aisément que maintenant, du coup, j'en sais pas plus que ce que tu viens d'en dire, en fait. À l'époque, c'est tout ce qu'on en a entendu, finalement. Et
voilà. À l'époque, c'était un problème de presse classique. La loi a été plutôt faite à partir de ces problèmes de presse classiques, c'est-à-dire on sort un livre sur quelqu'un. Le livre, on va pas pouvoir le modifier aussi facilement qu'un forum ou qu'un blog. Ce quelqu'un trouve qu'il a été maltraité dans le livre, il va porter plainte pour essayer d'obtenir réparation. Et en fait, cette loi est toujours valable sur Internet. On est tous considérés comme des écrivains, des éditeurs. On est responsable de nos écrits comme n'importe quel journaliste, finalement. Et j'en arrive à ma deuxième idée reçue, en fait. Moi, je pensais que la diffamation, c'était de dire quelque chose de faux. Alors, je ne sais pas si toi aussi, tu avais cette idée reçue-là, mais voilà, je pensais que diffamer, c'était dire quelque chose de faux sur quelqu'un. En fait, l'esprit de la loi, si je l'ai bien compris, encore une fois, je ne suis ni juriste ni avocat, cette loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté de la presse, moi, ce que j'ai compris de cette loi, c'est que la diffamation, en fait, c'est une atteinte à l'honneur. C'est avant tout une atteinte à l'honneur. C'est-à-dire, si je parle de monsieur X qui vend des arnaques, par exemple, j'atteins à son honneur. Si j'atteins à son honneur, il est en droit, d'après cette loi, de me poursuivre pour diffamation. Et je n'échapperai pas au procès. Il va pouvoir aller jusqu'au bout de ce procès, et j'en aurai pour deux ans de procédure. Alors je dis « je » en exemple, mais c'est valable pour tout le monde. La différence, hein, qu'il faut bien comprendre entre, j'essaye de faire le tour de la diffamation, hein, qu'on comprenne bien, la différence entre une diffamation et une injure, c'est le fait qu'on prenne un fait précis. Monsieur X vend des arnaques, c'est plutôt précis. On comprend ce qui se passe. Monsieur X est un, on va donner des gros mots derrière, un connard, un salaud. C'est pas précis. Là, on est vraiment dans l'injure. Alors là, les deux exemples sont vraiment très distincts, mais il y a des moments où on peut basculer de la diffamation à l'injure. On n'est pas tout à fait sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où c'est public, où une diffamation va être diffusée sur un blog, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en privé. Si c'était une diffamation en privé, ça relèverait d'une amende. Ce serait relativement peu grave. Mais à partir du moment où c'est public, c'est sur Internet, ça devient quelque chose qui relève du pénal. Donc, à ce moment-là, on est parti pour un parcours judiciaire du combattant. Donc, on imagine que tu aies porté des propos diffamants sur quelqu'un. On peut reprendre le balado. Hein.
Ouais.
Il y a quelques endroits, je pense, où on retrouvera. On a l'impression, hein, quand on dit la vérité, qu'on est à l'abri de ce genre de choses. Et en fait, non. Si on prend dans les détails, il y a beaucoup d'endroits où on peut atteindre à l'honneur de quelqu'un quand on pratique le scepticisme scientifique.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai jamais pensé être. je veux dire, comme j'ai suivi Simon Singh et tous les débats autour de ça, je sais très bien que je cours incessamment le risque. Mais comme tu dis, à l'inverse, bah, finalement, la seule manière de vraiment se protéger de ça, ça serait plus du tout de faire de scepticisme, parce qu'il n'y a aucun moyen de critiquer qui que ce soit sans attendre à son honneur. C'est vraiment extrêmement difficile, quoi.
Exactement. Moi, je sais que quand je lis, ça doit être à peu près la même chose chez tous les sceptiques. Et dans le monde de la recherche d'où je viens, à chaque fois qu'on va lire un article, à chaque fois qu'on va lire des expériences, donc on se demande toujours à quel endroit le gars a pu faire une erreur, le gars a pu faire quelque chose. On a des warnings qui s'allument à la lecture d'un texte, alors que ce soit sur des pseudosciences, etc. Les warnings s'allument dans tous les sens et on essaye de résumer tout ça. Maintenant, j'ai un deuxième warning qui fait, tiens, cette phrase-là, elle relève de l'atteinte à l'honneur de la personne, donc on court un risque. Et finalement, ce warning-là s'allume régulièrement. Donc, pour résumer, hein, un parcours judiciaire du combattant sur la diffamation en France. Donc, bah, il va vous falloir prendre un avocat parce que c'est quand même du pénal. Donc, ça rigole pas. Ça veut dire que vous risquez de passer entre le pédophile et le pyromane local devant des juges. Tout ça est public. Donc, pour ce qui vous paraissait relativement anodin, une écriture ou un enregistrement sur un blog, vous devez prendre un avocat, vous avez une procédure qui va durer plusieurs années, parce que la justice est très lente, de plus en plus lente. Vous aurez le droit à une enquête de gendarmerie. Alors, dans les cas de diffamation, l'enquête de gendarmerie va pas servir à vous aider à montrer ce qui est la vérité, elle va juste servir à savoir qui vous êtes, quand est-ce que vous avez publié vos écrits, etc. Rarement une garde à vue. Ça peut arriver. Il y a un journaliste, il n'y a pas si longtemps que ça, Vittorio de Filippis, a dû être réveillé par les gendarmes ou les policiers de bonne heure, passer en garde à vue, et avec tous les joies que ça a pu impliquer. Vous êtes mis en examen. Donc encore une fois, même si vous avez dit la vérité, vous y passez, vous êtes mis en examen, vous devez préparer votre défense, vous aurez des audiences, vous aurez à dépenser beaucoup d'argent, donc en frais de justice, en déplacement, et quoi qu'en pense le procureur ou le juge d'instruction pendant toute cette étape, on n'y échappe pas. Si on est cité directement, on finira par aller à une audience au tribunal. Donc voilà pour ce qui se passe lorsqu'on écrit quelque chose qui atteint l'honneur de quelqu'un. Je peux te présenter les différents moyens de défense. Si tu as d'autres questions, si tu veux que je précise avant que je passe aux moyens de défense, n'hésite pas.
Non, juste pour réagir à ce que tu disais, effectivement, il y avait eu un procès dont tu n'as pas parlé, mais qui était avec Jean-Jacques Velasco, donc un des ufologues qui avait sur la rentrée atmosphérique, qui avait critiqué le travail fait par Jean-Jacques Velasco au CNES, et donc Jean-Jacques Velasco l'avait attaqué pour diffamation, et effectivement il avait perdu le procès en diffamation. Et alors ce sceptique, bon, dans la vie de tous les jours, il a un métier tout à fait, je crois qu'il est, il s'occupe d'un magasin de vélo, je pense, hein, donc alors évidemment c'est le point que tu donnes. Souvent on me dit voilà, il a perdu parce qu'évidemment c'était un gars qui tient un magasin de vélo contre un universitaire travaillant au CNES. Alors en fait c'est l'argument de la vérité. Nous on dit il a dit la vérité, il aurait dû gagner. S'il a pas gagné, c'est parce que le juge l'a pas pris au sérieux. Mais en fait ce que tu nous expliques bien là, c'est qu'en fait le fait qu'il est le juge ne porte pas un jugement sur le fait qu'il a dit la vérité ou qu'il ait eu raison dans son argument théorique. Il porte uniquement sur l'atteinte à l'honneur, quoi. Ça n'a rien à voir avec la vérité du propos, quoi.
On va y venir justement dans les moyens de défense. Ce que je veux mettre en avant, c'est surtout le risque qu'on prend, qui est que même si on donne la vérité, on va avoir ce parcours judiciaire. Et c'est le plus dur, je pense, dans ce genre de choses, c'est d'avoir des recommandés tous les 15 jours du procureur, du juge d'instruction, etc. Ça, on n'y échappe pas alors qu'on a pu dire la vérité à toute cette partie. Mmh. Alors j'en viens aux moyens de défense où on va parler de vérité. Je vais passer rapidement sur les moyens de défense sur la forme. Ce qui est relativement intéressant, c'est qu'en France, il y a une prescription courte qui est de 3 mois, c'est-à-dire que donc là, si la personne qui veut vous attaquer n'a pas attaqué dans les 3 mois, vous êtes tranquille. Donc tout ce que tu as posté normalement depuis plus de 3 mois est prescrit. On n'est pas censé pouvoir te poursuivre, bien qu'il y ait des petites astuces. La requalification, si le juge considère, une fois que tu passes devant lui, que c'était pas de la diffamation mais de l'injure, comme il se sera passé plus de 2 ans avant qu'il ne requalifie, eh ben on redémarre au départ. Donc la personne, c'est comme si elle portait plainte pour injure depuis 2 ans, comme il y a eu les 3 mois de prescription. Donc ça tombe. C'est des petites astuces comme ça d'avocat, et c'est bien pour ça qu'un avocat est quand même indispensable dans ce genre de situation. Alors les moyens de défense maintenant sur le fond. Donc effectivement, la diffamation reconnaît des exceptions, 2 exceptions principales, l'exception de vérité et l'exception de bonne foi. L'exception de vérité, vous avez 10 jours, là c'est relativement important, faut pas les rater, vous avez 10 jours à partir du moment où vous êtes cité pour présenter un dossier qu'on appelle une offre de preuve. Vous devez le présenter au tribunal, c'est-à-dire passer par un huissier, qui va encore vous coûter un petit peu d'argent. On arrive à ce problème philosophique de savoir qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce qui est la vérité, comment arriver à démontrer que quelque chose est vrai. En tant que sceptique, on commence à avoir fait un petit peu le tour de la question. Finalement, on va se poser sur l'état de l'art de la science, sur ce qu'on appelle des connaissances, ce sur quoi on se base, qui a été le plus souvent démontré, mais qui est surtout le plus probable. Je ne sais pas si toi tu as une définition de la vérité, de ce qui est un fait, mais c'est quelque chose, quand on y réfléchit, qui est très compliqué et très compliqué à faire passer, y compris auprès d'un juge. Alors je rappelle que les juges ont étudié le droit, mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de cours d'esprit critique ou de cours de logique, parce que moi j'ai pu avoir dans le cursus informatique. Donc c'est des choses qu'il va falloir réussir à présenter à quelqu'un qui n'a pas forcément ces notions-là. Par contre, il a de très bonnes notions de qu'est-ce qu'est un fait, qu'est-ce qu'une vérité au sens juridique. Donc si on lui apporte des preuves au sens juridique, il va être très sensible. Encore mieux si vous déclarez que quelqu'un est un escroc, par exemple, et que cette personne-là a été condamnée récemment pour escroquerie. C'est ça, le juge va sûrement l'accepter comme une exception de vérité. Je reprends l'affaire Brock. Il y avait une histoire de sarcophage. Est-ce que le sarcophage était ou non abrité des intempéries? Brock a réussi à avoir son exception de vérité là-dessus parce que il a démontré plusieurs photos. Il a montré plusieurs photos. Il a montré plusieurs témoignages. Donc le juge a accepté cette vérité-là. Si on se met dans un mode complètement complètement complotiste, on va se dire qu'on peut tout à fait remettre tout en question et que la vérité n'était pas établie à ce moment-là. Donc, tu vois cette difficulté qu'il y a pour apporter cette exception de vérité, plus les problèmes de forme d'envoyer dans les 10 jours, etc. C'est quelque chose de très complexe. Il faut en plus montrer que tu possédais la vérité au moment où tu as fait tes écrits. Il s'agit pas de venir 2-3 mois après avec de nouveaux éléments pour dire bah vous voyez j'avais raison. Il fallait au moment où tu as tenu tes propos avoir l'ensemble des preuves. D'où la nécessité de sauvegarder toutes les preuves que vous avez quand vous avancez des propos, de les dater. C'est presque une enquête à chaque fois quoi. Donc voilà pour cette exception de vérité. L'autre moyen de défense, si on n'arrive pas à sortir cette exception de vérité, il y a un autre moyen de défense qui est à notre disposition qui s'appelle l'exception de bonne foi. Alors l'exception de bonne foi, c'est quelque chose qui va réunir 4 éléments. C'est vraiment 4 éléments indispensables. Ça va être d'abord la qualité de l'enquête, ensuite l'absence d'animosité personnelle, ensuite la légitimité du but poursuivi, et enfin, la prudence dans l'expression. Donc, je récapitule. Quelqu'un te poursuit en diffamation parce que tu atteins son honneur. Tu vas avoir toute la procédure. Tu vas d'abord essayer de te défendre sur l'exception de vérité. Et tu vas également essayer de te défendre sur l'exception de bonne foi. Donc, la bonne foi, il va falloir que tu montres que tu avais une enquête suffisamment importante. C'est un petit peu ce que tu avais donné pour l'exception de vérité. Mais si c'est pas passé, ben, tu montres que tu as un faisceau de preuves. Voilà. Que tu avais une absence d'animosité personnelle. En général, dans ce qu'on fait dans le milieu sceptique, on se pose vraiment pas du tout en tant qu'acharné contre la personne. On essaye de démontrer des choses. Donc l'absence d'animosité personnelle est en général acquise. La légitimité du but poursuivi. Ton objectif, en général, en tant que sceptique, c'est d'être pédagogique, de montrer aux gens l'état de l'art, d'essayer de montrer à des gens peut-être un petit peu naïfs ou peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir certaines connaissances, de leur apporter. Donc en général, ça passe aussi. Et il reste la prudence dans l'expression. Alors là c'est vraiment compliqué. Moi personnellement, c'est ce qui m'a planté. J'ai donné un mot qui me paraissait plutôt être un représentatif de quelque chose, un bluff de la personne. Donc ça n'a pas été considéré comme suffisamment prudent. J'aurais dû mettre du subjonctif. J'aurais dû mettre des choses comme ça. C'est quelque chose de très compliqué, ça, parce que ça va dépendre de l'interprétation du juge. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main en tant que sceptique. Ça nous paraît évident, on affiche le fait qu'on doute en permanence, mais est-ce que le fait qu'on doute en permanence ne nous permet pas de donner des affirmations? C'est-à-dire, si aujourd'hui j'affirme quelque chose, moi je considère que je suis sceptique et je suis prêt à revenir dessus à partir du moment où on m'apporte des preuves. Je peux pas passer ma vie à parler au conditionnel pour des choses dont le curseur de vraisemblance me paraît vraiment très important. Donc voilà, ce qui est assez marrant dans l'affaire de Brock, c'est qu'il a deux choses qui sont passées par l'exception de vérité, et une qui est passée par l'exception de bonne foi. En fait, je crois que c'est disponible sur le site de pseudo-science, le délibéré. En fait, il a déclaré que la personne d'en face était un menteur, si je me rappelle bien. Et le juge lui a dit, mais être un menteur, vous pouviez pas le considérer comme un fait, vous pouviez pas le savoir, à défaut d'être dans la tête de votre adversaire. Donc voilà. Donc il y a une partie qui est passée sur l'exception de bonne foi. Et en tant que sceptique, on se dit, c'est étonnant. Henri Brock, il aurait dû réussir à tout passer en exception de vérité. Donc voilà. Même les meilleurs sont pas à l'abri de ça. Est-ce que tu as des questions éventuellement sur l'exception de bonne foi ou de vérité? Parce que c'est vraiment la base de la défense dans ces cas-là.
Oui, non, pour moi c'est très clair. Évidemment j'ai fait des lectures sur le sujet aussi, mais je pense que ça devrait être clair pour les auditeurs aussi. T'as raison, ça veut dire faut vraiment être très, il faut être prudent dans la manière dont on formule. Mettez des conditionnels, les gars.
Pas partout. Partout, mais alors ce qui est assez embêtant, c'est que tu vas te confronter dans les pseudomédecines à des gens qui t'affichent en trois mots des propriétés sur un produit. Ces gens-là, avant de réussir à les poursuivre, ça va être l'enfer. Alors que dans l'autre sens, si toi tu fais un article et que tu mets un titre vraiment un titre comme dans la presse, t'as pas la place dans un titre pour être suffisamment prudent. C'est vraiment particulièrement difficile. Alors faudrait mettre des points d'interrogation partout, etc. Mais tu vas passer d'une langue à une autre, ça va être compliqué. Je sais que Simon Singh en Angleterre, lui, le terme qu'il a dû utiliser, c'était bogus, quelque chose comme ça.
Oui, c'était ça, ouais, bogus, ouais, le traitement de chiropractique est bogus, donc.
Voilà. À froid, on a envie de lui dire, oh, t'as peut-être été un petit peu fort. En même temps, un petit peu fort et se prendre toutes les poursuites qu'il a eues. Là, je trouve que la justice a été démesurée dans ce cas-là. Alors encore une fois, c'est pas la faute des juges. Hein. Les juges appliquent la loi. C'est plutôt la loi et la façon dont elle est appliquée qui est peut-être à remettre en cause ce qu'il a fait de son côté.
Le problème, en plus, on va parler des frais aussi, mais c'est ça, quoi. En Angleterre, le problème, c'est que la loi est vraiment mal foutue et que ça coûte une fortune pour se défendre. Parce qu'en fait, Simon Singh a gagné, mais en fait, la stratégie de l'association chiropractique, c'était que, il savait qu'il ne gagnerait pas, en fait, mais comme de toute façon, il savait aussi que pour se défendre, Simon Singh allait dépenser une fortune, Il compte là-dessus pour que la personne attaquée se rétracte, quoi, ou abandonne.
Exactement. Exactement. Sur la diffamation, je finis sur un, on va parler des coûts, du coup. Je finis juste sur le paradoxe, hein, de la diffamation, c'est que finalement, tu peux dire quelque chose de vrai et être condamné. Si t'as pas réussi à respecter les 10 jours, si t'as pas réussi à retrouver des éléments que t'avais à l'époque, tu peux être condamné. Donc si Monsieur X vendait effectivement des arnaques, mais que tu as échoué à en faire la preuve devant la justice, ça peut être vrai, mais tu n'as pas réussi à en faire la preuve devant la justice, tu es condamné. Dans l'autre sens, tu peux dire quelque chose de complètement faux sur quelqu'un. Mais si tu avais quelques éléments qui te permettaient de le penser, si ton but était intéressant, et s'il n'y avait pas d'animosité, et si tu es resté relativement prudent, eh ben tu vas être relaxé. Donc c'est là tout le paradoxe. Hein. Tu peux dire quelque chose de vrai et être condamné, quelque chose de faux et être relaxé. À mon avis, il y aurait quelque chose à faire à ce sujet-là. Alors... les coûts, effectivement, ça fait partie de mes idées reçues. S'exprimer, ça doit pas coûter cher. Dire quelque chose que quelqu'un va considérer faux, il y a moyen d'avoir une conciliation à pas si cher, normalement. Eh ben, c'est pas le cas. Et même en cas de victoire. Je sais, d'après ce que j'ai vu dans mon cas et dans d'autres cas, qu'il faut compter plusieurs milliers d'euros pour avoir une bonne défense. C'est-à-dire prendre un avocat. Je pense que c'est une procédure complète pour un avocat. En province, on va compter dans les 3000 euros, peut-être, quelque chose comme ça. Si t'as des avocats qui passent sur le blog, ils peuvent corriger, hein, y a pas de souci. Je dis juste ce que j'ai pu observer. Le truc, c'est qu'il faut prendre un spécialiste, hein, qui connaît bien la question, parce que sinon il est capable de te planter ta défense. Donc faut vraiment trouver un spécialiste. En général, c'est sur Paris. En général, ça coûte très cher. Tu vas avoir tous tes frais de déplacement, tes frais d'huissier. Faut pas oublier le stress que ça va engendrer, les journées que tu vas passer à te défendre et aller aux audiences. Souvent, il y a des renvois. Donc tout ça s'accumule. Ça fait vraiment des chiffres. C'est pas en France, c'est pas aussi délirant qu'en Angleterre. Mais autant ça peut être supportable par un journal d'investigation, autant pour un particulier, c'est difficilement supportable. Dans le cas de Brock, hein, je crois qu'ils ont obtenu, en cas de victoire, hein, ils ont réussi à obtenir de la partie adverse 3000 euros pour eux trois. Il devait y avoir Brock, Sharpak et l'éditeur, 3000 euros pour trois. Donc je pense que ça ne couvrait pas leurs frais de justice. Ça, c'était pour l'article 700, c'est-à-dire les frais de justice pour l'avocat. Tous les frais autres, normalement, ont dû être remboursés par la partie adverse. Faudra lui poser la question. Je pense qu'il n'est pas rentré dans ses frais. D'un point de vue strictement comptable, moi c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que à un moment, il valait mieux perdre sans avocat que de gagner avec. C'était mon pari et je le regrette pas parce que financièrement je pouvais pas lutter. Donc voilà. Maintenant, il y a des moyens de s'en sortir, hein. Il faut regarder, on en a discuté, hein. Faut regarder est-ce qu'on est bien assuré, est-ce qu'on a une protection juridique, est-ce que cette protection juridique a des plafonds, est-ce qu'elle va nous aider sur les frais de déplacement, sur ce genre de choses. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu écris sur Internet, la personne peut te poursuivre dans n'importe quelle ville de France. C'est-à-dire, si t'es en Bretagne et que la personne habite à Marseille, elle peut porter plainte à Marseille et les audiences auront lieu à Marseille. Donc, ça va te coûter cher. Encore pire, des gens portent plainte contre des étrangers en France. Je prends l'affaire de Joseph Weiler, là, professeur américain, donc qui a dû venir en France pour se défendre sur un problème de droit de la presse. Je crois qu'il est professeur de droit, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, pour ce genre de choses, faire déplacer ces personnes. Il y a des gens qui pratiquent aussi le tourisme de la diffamation. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'au lieu de porter plainte en France, tu vas dans un pays, ce qui était le cas en Angleterre et qui est sûrement le cas encore. Je sais pas si la loi évolue là-dessus. Tu peux aller en Angleterre porter plainte contre quelqu'un en France parce que ça va lui coûter beaucoup plus cher de se défendre sur place. On en arrive à se poser la question du coup de est-ce que quelqu'un peut aller choisir, donc ce tourisme de la diffamation, peut aller choisir le pays le pire pour aller poursuivre quelqu'un d'autre. Donc on aurait le régime sur Internet qui correspond au pire régime par pays. Donc,
ça a été l'argument, enfin ça a été un des arguments massus pour essayer par ceux qui demandent de changer la loi en Angleterre, parce qu'ils ont effectivement, comme c'est une des pires lois au monde, ils ont effectivement énormément de touristes comme ça qui savent qu'en portant plainte en Angleterre, ça va être l'horreur pour la personne à qui on.
Ouais, j'ai les chiffres là sur Simon Singh, je crois qu'il déclarait plus de 100 000 pounds de.
Heureusement, il a reçu de l'argent. Enfin, la communauté sceptique l'a aidé financièrement, sinon il n'aurait pas pu. Mais
voilà. Donc les moyens d'y faire face, hein, c'est d'abord si on est un particulier des assurances, si on peut faire partie d'une association, c'est intéressant aussi parce que c'est l'association qui va permettre d'endosser une partie des problèmes. On peut faire des appels aux dons, hein, et souvent les gens ils sont réduits. Je vois Christophe Grébert, il est asphyxié financièrement pour ses problèmes en diffamation, donc il fait des appels aux dons parce que sinon il peut pas s'en sortir. Pour des journalistes, je te dis c'est plus facile parce que tu vas déjà avoir l'article qui va avoir permis de rapporter de l'argent au journal et qui va permettre de compenser. Tu peux écrire des livres qui vont raconter l'histoire. Je l'ai pas encore fait, je le ferai peut-être un jour pour récupérer ce que j'ai perdu. Mais donc voilà, le problème en France est vraiment plus pour le particulier, le sceptique, le lanceur d'alerte.
Mais au niveau des associations, je sais pas trop comment ça va. Je pense que je posais la question, par exemple, avec l'Observatoire Zététique. Enfin, moi, je suis membre de différentes organisations sceptiques, mais apparemment, c'est quand même difficile d'avoir une sorte d'assurance qui couvrirait. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'à la limite, on pouvait au mieux couvrir le président de l'association, et encore, c'était difficile.
Voilà. Alors, par rapport à l'OZ, ce serait des choses dans leur newsletter, par exemple. Je pense que si il y avait quelque chose qui était reproché dans leur newsletter, je pense que l'éditeur, dans ce cas-là, parce qu'il y a une différence entre celui qui écrit et celui qui édite. Les deux sont en général poursuivis. Et l'éditeur a une responsabilité plus importante. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tu mutualises un petit peu les risques et ça va être l'association qui risque de prendre pour sa partie édition ou le président. Là, faut vraiment demander à un spécialiste. Et ça te permet de mutualiser un peu les risques. ce qui me choque un peu aussi, hein, je dis de prendre une assurance. Moi, je trouve pas que la communauté a à prendre en charge des problèmes qui prennent 2 ans, 3 ans à être réglés et qui pourraient être réglés autrement, quoi, par une discussion sceptique. Ouais, ça me pose des problèmes. Je considère que pour un sceptique, apporter la contradiction, c'est un sport à risque. Alors que dans le même temps, le charlatanisme est vraiment en bonne santé. Il y a très peu de gens poursuivis. Hein. Franchement, j'ouvre des magazines. Des magazines que j'ai pas l'habitude d'ouvrir régulièrement, tu vas avoir toute une sorte de thérapies qui sont proposées, qui ont jamais été validées, et ces gens-là ne sont pas poursuivis.
Mais à l'inverse, mais ça, c'est peut-être aussi une situation francophone, parce que quand je suis allé à TAM, au Congrès Sceptique Mondial à Berlin, il y a eu plusieurs interventions dans le monde anglo-saxon sur comment utiliser la loi pour combattre le charlatanisme, et en fait c'est probablement des stratégies qu'on n'a pas du tout en francophonie pour le moment, mais en fait les anglophones se rendent compte que parfois, plutôt que de bloguer, justement comme tu dis, c'est un sport à risque, utiliser la loi, en fait, par exemple, évidemment le problème c'est que je connais pas les lois, justement c'est aussi une partie du problème, mais en Angleterre, on peut, si quelqu'un fait une affirmation, enfin s'il met une publicité pseudo-scientifique dans un magazine, on peut porter plainte dans un organisme qui va devoir inspecter la pub pour voir si, et le gars, il avait fait un, le gars avait fait une sorte de programme automatique qui encodait automatiquement toutes les publicités d'un magazine et qui les envoyait par, il avait tout informatisé, quoi. Et tous les jours, il envoyait 30 plaintes au service. C'est une stratégie qui a fonctionné, quoi. Donc, il avait fait un exposé sur ça. Et c'est vrai que c'est peut-être à réfléchir, voir ce que la loi permet en France, mais on n'utilise pas assez ces stratégies, en fait.
En fait, il y a deux pans. Pour moi, il y a un idéal qui est presque un idéal à la Chomsky, où tu peux arriver à dire tout, tu autorises les gens en face à dire tout tant que c'est de l'expression. Et si tu as des gens suffisamment éduqués, si tu as des gens qui ont suffisamment été éduqués à l'esprit critique, tu peux avoir une discussion qui va permettre de corriger ce qui est faux ou ce qui n'est pas crédible. Donc ça c'est un idéal. Ça, c'est pour moi, la science, elle doit pas se faire devant les tribunaux. Tu vois ce qui se passe dans les milieux scientifiques, dans la recherche. Moi, j'ai vu des gens se prendre la tête assez sévèrement, surtout les phylogénistes, alors qu'ils ne portent pas plainte contre moi, mais j'ai vu des combats de phylogénistes qui voulait placer un organisme à un endroit dans un arbre phylogénique plutôt qu'un autre endroit, et ça se bagarre sévèrement, mais ça finit pas devant la justice. Les seuls que je vois actuellement dans le domaine scientifique, il y a Serralini là qui sur les OGM qui porte des plaintes pour diffamation. T'as les Bogdanov qui porte plainte aussi pour diffamation. Je sais pas si t'avais vu cette histoire là aussi.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est vraiment le côté médiatique qui est, dès que quelqu'un un tout petit peu connu va être mis en cause, le lendemain tu as cette personne à porter plainte pour diffamation. Et c'est une question de réputation, hein. C'est utiliser la justice de manière à rééquilibrer son niveau de réputation dans les journaux. C'est des problèmes d'ego. Est-ce que ça a sa place dans les tribunaux, sachant que la justice va donner sa décision des années après, donc quand tout sera passé. Moi ça me pose problème. Alors je suis d'accord, hein. Pour le moment je suis dans ce monde là qui a pas trop changé, donc effectivement quand on va atteindre à mon honneur sur internet, parce que j'y ai eu le droit aussi, je fais pareil, je dis écoutez, il y a des lois, on peut en passer par là. Moi je préférerais régler les problèmes de façon scientifique, sceptique, et c'est effectivement ce que tu dis par rapport aux ventes d'arnaque. On pourrait passer en permanence devant la justice. Je pense qu'il faut libérer la justice de ce genre de choses, ou au moins avoir des procédures beaucoup plus courtes, beaucoup plus intelligentes. C'est pas possible de continuer à fonctionner dans ces systèmes-là. Alors c'est assez marrant hein, d'être confronté à cette justice où tu où tu vas passer devant des gens qui ont l'air de te comprendre, qui sont vraiment fort sympathiques, les gendarmes, les juges, tout ça, qui vont appliquer la loi jusqu'au bout, qui vont peut-être avoir une interprétation différente de la tienne. Et tu te dis, ça c'est juste pour un message. Est-ce que la justice pourrait pas répondre à la même hauteur, avoir des espaces numériques de conciliation, avoir des jugements qui vont être rapides parce que tu leur auras présenté les choses de façon concise en leur envoyant déjà par email, je ne sais pas, il pourrait avoir tout un système électronique judiciaire. On n'y est pas du tout, quoi. C'est loin, loin, loin de la modernité, tout ça. Et les juristes s'en plaignent les premiers. Sur la diffamation, les avocats, je ne sais pas s'ils s'en plaignent beaucoup. Ça serait intéressant qu'on ait leur retour. Pour eux, c'est des affaires, donc ils vont les défendre. Ça leur rapportera des sous. Donc, je pense qu'ils voient les problèmes de longueur. Je pense qu'ils ne sont pas les premiers à vouloir un changement de la loi, à voir au cas par cas. Et c'est des choses intéressantes qu'il faudrait soulever en France, que Simon Singh a soulevé en Angleterre, et ici c'est l'immobilisme. Il y a rien qui se passe. Je me souviens, je crois que c'était Sarkozy qui voulait dépénaliser, pas de nouvelles. C'était une promesse qu'il avait tenue, pas de nouvelles. Ce que j'ai pu voir actuellement, la compagne de Hollande a commencé assez fort en matière de plainte en diffamation. Encore une fois, je dis pas qu'elle a pas raison de le faire. Je dis que c'est quelque chose qui est important et qui a l'air de pas vouloir bouger. Tu vois l'affaire Cahuzac aussi en ce moment contre Mediapart, c'est de la diffamation. Je pense qu'il y a moyen de régler les choses autrement. Donc voilà, ça dérange pas les journalistes qui pratiquent le journalisme de cours. Hein. C'est eux, ils vont pas aller dans le sens de la critique spécialement, donc ils s'en foutent un petit peu. J'ai noté cette semaine qu'il y avait une députée verte, je crois, qui a écrit un article dans le Huffington Post pour vouloir encadrer plus strictement la liberté d'expression sur Internet. Alors elle a ses raisons. Je pense qu'il y a des abus, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément les bonnes solutions pour réprimer ces abus et qu'ils oublient totalement ce côté liberté d'expression possible pour des sceptiques et ce que ça va apporter à la société. Donc voilà ce que je pense de la question.
Et pour enfin on arrive tout doucement à la fin de l'interview, mais donc toi tu as une assurance pour le moment ou comment?
Moi j'en avais pas à l'époque, maintenant j'en ai pris une. Il faut que c'est des choses qu'il faut redemander régulièrement. C'est pareil, c'est pas donné, mais c'est des choses à faire. Mais l'assurance ne va pas t'empêcher d'avoir ce parcours judiciaire qui encore une fois est long et stressant. Tu trouves ça particulièrement inutile pour une question qui peut être résolue en quelques heures d'un point de vue scientifique, quoi.
Bah en tout cas, oui, avant que tu n'en parles, j'ignorais que ça existait, honnêtement. Et c'est vrai que depuis que tu m'as mentionné la chose sur Internet, je me suis renseigné en Belgique, et effectivement. Enfin, j'en ai pas encore pris une, mais je vais en prendre une. Je suis en train de comparer les différentes options, quels assureurs proposent quoi. C'est clair, je vais en prendre une.
Alors, je veux pas affoler les gens non plus. En général, ceux qui donc il y a effectivement ces gens connus qui vont le faire d'un point de vue médiatique, porter plainte en diffamation. Moi, ce que j'aimerais, hein, c'est que les journalistes arrêtent de relayer ces plaintes en diffamation dès le lendemain, parce que c'est pas une information de premier ordre, je pense pas. Donc c'est à ce côté médiatique-là, mais nous, ce qui nous intéresse en tant que particulier, c'est que ça va dépendre de à qui tu vas te confronter. C'est-à-dire, si c'est une grosse société, elle va avoir les moyens de t'attaquer, donc là il faut avoir les moyens de te défendre. Si c'est un particulier, il va hésiter un petit peu parce que lui ça va lui coûter. par exemple, si même s'il gagne, lui aussi va devoir débourser beaucoup en frais d'avocat et frais de justice. Et même s'il gagne, il va pas s'y retrouver. Donc si tu joues contre un parce que c'est ça, hein, si tu joues contre un bon joueur de poker, normalement il y a peu de chances qu'il te poursuive. Si tu joues contre quelqu'un qui est sûr de ses faits, qui est absolument omnibulé par sa propre morale, il va te poursuivre quoi qu'il en coûte, même si ça lui coûte particulièrement cher, et il va te mettre en risque dans ces cas-là. Je reprends le poker, c'est la même chose que jouer au poker contre quelqu'un qui n'a pas l'habitude. C'est particulièrement risqué. Donc,
ouais. Bah effectivement, bon, pour les sceptiques, c'est les sociétés pharmaceutiques qu'on ne nommera pas, etc., qu'on
Exactement.
Peut critiquer parce qu'elles vendent certains produits et elles, évidemment, elles ont franchement les ressources financières et elles en ont rien à foutre. Donc,
ah bah j'avais pas cité cet exemple, je crois le forum Les Arnaques là, qui je sais pas s'il existe encore d'ailleurs, qui a été poursuivi sur 10, il y a eu 18 plaintes en diffamation pour des propos qui ont été tenus dedans, alors que leur but, si j'avais bien tout suivi, c'était de concilier les consommateurs avec les grandes sociétés en rapportant des problèmes et en essayant de les résoudre. Voilà, Mediapart dans l'affaire Pérol qui est poursuivi sur 11 plaintes en diffamation, c'est de l'asphyxie. Si tu tombes sur quelqu'un de particulièrement fort, c'est très compliqué. Donc voilà. Alors c'est assez marrant parce que tu vois mon pseudo que j'avais choisi, qui était skateboarder, que j'utilise régulièrement parce que je considère pratiquer le scepticisme scientifique comme un sport. Je trouve ça très proche de dire skateboarding is not a crime, comme on pouvait dire skateboarding is not a crime à une époque, tu vois, le fait de refouler les skateurs dans des endroits où ils vont pas embêter les gens, et ben il se passe à peu près la même chose avec les sceptiques.
Excellent. Voilà. J'avais pas du tout compris. Enfin, c'est vrai que ça m'a pas frappé.
J'y suis venu plus tard à rajouter is not a crime.
Très bien, bah écoute, merci beaucoup d'avoir. Je pense que tu as éclairci la lanterne de beaucoup d'entre nous, donc.
J'espère. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur des choses scientifiques et sceptiques, mais je crois que j'aurais fait un apport non négligeable dans ce domaine, qui est la liberté d'expression. Et encore une fois, moi je regrette pas d'avoir fait ce parcours, qui a plutôt rapporté à l'État français ce qu'il a failli perdre. Voilà, je donnerai les détails dans quelques années, hein, quand tout sera totalement réglé.
Ok, encore merci, à une prochaine.
Merci à toi, salut.
Ciao. Thank you.